Exactement, midi 35 minutes. Vous avez raté notre excellente discussion avec Farnell Morisset et Lambert Drainville à propos des 5 féminicides faits déjà depuis le début de l'année. C'est la moitié de l'an passé. La violence faite aux femmes, ben, ça va être disponible sur notre page YouTube et également sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. Pour la page YouTube, Max Larouche vient de nous la mettre déjà. Donc, merci à Max Larouche pour sa contribution. François qui écrit... J'étais présent au lancement de la grande réforme mercredi dernier et wow, un beau projet de société pour la DPJ. C'est très plaisant, François, que tu interagisses comme ça au 418-971-1021 parce que Pascal, on a au bout du fil justement la directrice en matière de protection de la jeunesse, Leslie Hill, qui va nous parler de sa nouvelle réforme concernant les jeunes de 6 à 12 ans et les centres jeunesse. Madame Hill, merci infiniment d'être présente à l'émission d'En Jase aujourd'hui.
Bonjour à vous.
Madame Hill, je vous lance comme ça. Vous avez décidé de faire une réforme pour les 6 à 12 ans. Pourquoi vous constatiez qu'il y avait vraiment des lacunes pour cette clientèle-là?
Honnêtement, je pense qu'on a besoin d'un grand coup de barre pour changer de direction au Québec par rapport à cette jeune population. Parce que ce que je vois, c'est des enfants qui deviennent institutionnalisés au Québec et ça, j'en veux plus.
OK. Alors, c'est une réponse hyper concise. Moi, je veux vous la faire développer parce que quand j'ai vu qu'il y avait des enfants de 6, le 6 m'a frappé très fort, à 12 ans en centre jeunesse, on parle de quel enfant, on parle de quel parcours, parce que c'est très jeune, 6 ans, là.
Oui. On parle d'enfants qui, malheureusement, ont... en fait, ils portent en eux des traumatismes assez graves et profonds et bien sûr, on essaie de maintenir les enfants dans leur milieu familial d'abord, hein. Puis si on peut pas, mais les premiers choix, c'est grand-maman, oncle, tante, etc., des personnes significatives. Et après ça, on a quand même un réseau de familles d'accueil. Si on a des enfants en centre de réadaptation, c'est que toutes ces solutions-là que je viens de nommer ne fonctionnent pas pour eux. Et on a des enfants qui sont incapables d'investir des adultes et qui font des crises même dès qu'on essaie de les approcher. Donc, des petits-enfants terriblement blessés et pour qui on a besoin d'une attention particulière, mais des services spécifiques développés pour leurs besoins. Et malheureusement, on a développé une réponse plus institutionnelle au Québec, puis c'est ça que j'essaie de virer de bord.
OK, je comprends que vous dites que c'est des enfants qui, bon, habituellement, on aurait pu peut-être placer en milieu familial et tout ça, mais par les comportements, les blessures, etc., les traumatismes, ça vient à être des enfants plus difficiles, donc c'est pas mal les centres jeunesse qui étaient la réponse à un enfant qui s'intègre pas en milieu familial. Bon, c'est un peu ce que j'ai compris. Par contre, le centre jeunesse est trop institutionnalisé, trop froid, moins chaleureux et tout cela, c'est ça que vous voulez faire changer? Si oui, ce serait quoi la solution?
Mais des petits ont besoin d'être dans un milieu familial, dans la communauté, dans la mesure du possible. Puis quand c'est pas possible, bien, il faut que nos milieux se rapprochent de ça. Je vais le dire comme ça. Puis on veut avoir des enfants qui sont inscrits à leur école de quartier, pas scolarisés à l'intérieur d'une institution. Donc, pour ça, on a quand même des foyers de groupe actuellement un peu partout au Québec. C'est des petites maisons unifamiliales dans des quartiers. Ça paraît pas que c'est un foyer de groupe. Il y a des petits-enfants de 6-12 qui habitent là et qui ont une équipe quand même stable parce que ces milieux-là, c'est nos équipes les plus stables, ils investissent le foyer, les enfants. Donc, on arrive à développer une réponse quand même jusqu'à maintenant pour une certaine partie de ces enfants-là. Mais je pense qu'on a besoin de diversifier nos moyens pour s'assurer que, de un, quand on a besoin de les utiliser, qu'il y en a en taille suffisante ou en quantité suffisante avec du personnel formé, qualifié. Mais de deux, du jour un qui rentre là, il faut qu'on soit en train de planifier la journée de sortie, vous comprenez? On veut pas qu'ils restent là trop longtemps parce que même là, ça peut devenir des enfants qui sont plus institutionnalisés puis qui ont plus de difficultés à investir un milieu familial.
Pour rappel, on parle avec la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, sur une réforme concernant les 6 à 12 ans dans les centres jeunesse. Madame Hill, j'ai énormément d'admiration et de respect pour les intervenants qui travaillent à la DPJ. Ceci dit, on a entendu et on a vu dans les médias plusieurs cas de négligence. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation et surtout s'assurer qu'il n'y ait plus d'enfants qui passent dans les mailles du système?
Bien, vous parlez d'une réforme avec les 6-12 ans, mais on s'en vient avec quelque chose de beaucoup plus costaud que juste la dimension de l'hébergement. Donc, c'est une petite annonce parmi beaucoup d'annonces à venir. Donc, ce système-là, la première chose que je vous dirais, c'est il faut que ce soit seulement utilisé dans des cas de maltraitance importante, avec un niveau de vulnérabilité important des enfants. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est la maltraitance faite aux enfants, les abus physiques, les abus sexuels. Et au fil des années, on voit vraiment une augmentation et de plus en plus de situations qui sont signalées où les parents, les enfants, ils n'ont pas eu les services qu'ils avaient besoin avant. Il y a toutes sortes de situations où on voit des problématiques sociales. Donc, quand on parle de réforme de nos pratiques, dans le sens, le grand sens du nous, comme société, on a besoin de revenir sur la prévention, sur qu'est-ce qu'on offre dans les communautés, les milieux scolaires, les services de garde, les CLSC, comment on travaille avec les gens bien avant d'utiliser une loi matraque dans leur vie, là. Puis cela dit, le système lui-même a besoin de se corriger sur un certain nombre de choses aussi et améliorer les pratiques spécialisées pour certaines populations. Donc, je dirais que c'est un peu mes deux gros volets, hein. C'est la prévention, le soutien familial, et après ça, comment on améliore les pratiques spécialisées, y compris l'hébergement, mais c'est beaucoup plus large que ça, là, on s'entend. Oui.
Mais je vous écoute et je trouve ça fort intéressant. Là où j'ai un peu de difficulté, puis peut-être que vous allez me rejoindre là-dessus, mais il y a eu le rapport Laurent, les recommandations de Mme Régine Laurent qui a travaillé fort sur les dossiers. Là-dedans, ce qui m'avait marqué l'esprit, c'est de se dire, tu sais, s'il y a un enfant turbulent à l'école, là, il est insupportable. L'enseignant, il a bien de la misère. Puis comme n'importe quel parent, des fois, ça peut être insupportable, un enfant. Et là, il n'y a pas de canal de communication entre peut-être intervenants de la DPJ, enseignants, parents, peu importe, pour qu'ils s'échangent l'information. Du genre, hey, il y a eu violence à la maison. L'enfant va arriver aujourd'hui, puis ça se peut qu'il soit tannant. Donc, on a une approche différente en tant qu'enseignant à ce moment-là. Il n'y avait pas de canal de communication, puis il y avait dans des extraits du rapport, Laurent, des recommandations comme quoi il faut de la communication. Il n'y a pas grand-chose qui ont été appliquées là, du dit rapport, mais il y avait des choses là, tellement brillantes.
Moi, je vous dirais, j'étais commissaire sur cette commission-là, moi aussi, avec Régine. Donc, je suis une des signataires. Il y en a eu des choses de fait. Mais dans ce que vous dites là, il manque un gros morceau qui est le CLSC. Ça ne peut pas être le DPJ, le premier niveau pour le milieu scolaire quand un enfant est en difficulté. On a besoin d'être capable de faire autre chose avant. Maintenant, ce que le rapport Laurent a dit, par exemple, c'est quand un enfant est déjà pris en charge pour maltraitance, il faut que les communications soient là entre les milieux scolaires et le DPJ.
Ça a changé ou pas?
T'sais? Ça, c'est pas à mon goût encore. Honnêtement, et cette collaboration intersectorielle, je pense qu'on va devoir la forcer. Mais malgré que je dis ça, il y a des super de beaux modèles qui ont été développés depuis ce temps-là.
À quel endroit?
Pour agir ensemble. Mais Estrie, c'est vraiment notre coup de cœur. Hein. C'est le projet Agir ensemble qui est en déploiement maintenant dans d'autres régions aussi, où le milieu scolaire, le DPJ et le CLSC s'assoient avec le communautaire pour parler de situations difficiles.
C'est sûr que quand on a eu la fillette de Granby du côté de l'Estrie, peut-être qu'on a bougé un petit peu plus vite, là.
Bien, c'est sûr.
C'est déplorable aussi, il faut attendre ça.
Mais ils ont été tous traumatisés, hein, ces réseaux-là, y compris le milieu scolaire. Donc, on a vu poindre ce projet-là de concertation beaucoup plus vite à Granby qu'ailleurs à cause de ce qu'ils avaient vécu. Mais il faut apprendre de ça puis l'étendre. C'est ça qui est en train de se faire au Québec. Mais ça, c'est un modèle. Il y a aussi un autre modèle qui s'appelle Ma famille, ma communauté, où on s'assoit avec tous les acteurs d'une communauté autour des familles pour essayer de trouver des solutions. C'est en déploiement, mais c'est pas à mon goût encore.
Madame Hill, chose certaine, en tant que directrice de la protection de la jeunesse, puis je vais vous donner mon opinion personnelle, je trouve que vous avancez bien présentement les dossiers. J'ai confiance, on va vous avoir à l'œil.
Merci.
On va vous avoir à l'œil, puis on va vous reprendre en entrevue prochainement avec d'autres actions que vous allez faire.
Ben, merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part.
Ça fait plaisir, merci beaucoup. Leslie Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse, on a entre autres parlé des 6 à 12 ans. On comprend qu'il y aura d'autres actions dans le programme, notamment en ce qui a trait là, aux actions qui doivent être prises en charge par le milieu, un milieu qui doit se parler, évidemment, davantage.
Le midi, on en jase à Boulevard Saint-Denis.
Émission On en jase, c'est ton émission du midi, c'est ton émission d'actualité de midi à 14h. À la météo, c'est moins 15 degrés, moins 27 avec le refroidissement éolien. Alternance de soleil et nuages pour demain, moins 11 et moins 12 ensoleillés pour dimanche. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Depuis qu'on est entré en émission On en jase, on regarde le dossier sur les militaires là, accusés de terrorisme ici à Québec. Est-ce qu'ils auraient été trahis par un de leurs membres? Bien, de ce qu'on comprend, c'est que oui, parce que des documents policiers démontrent qu'un membre du Highland Stalk qui a signé une entente de collaboration avec les autorités, donc il serait devenu délateur. Ce sont des individus qui sont liés de près ou de loin aux Forces armées canadiennes, vous le savez. Ils ont été accusés au cours de l'été 2025, donc l'été passé, pour avoir facilité une activité terroriste, puis aussi avoir eu des ambitions territoriales, des ambitions probablement de se défendre contre des zombies. Ça aussi, c'est sorti dans les 10 dossiers.
Yes.
Mais vraiment, ce qu'on retient, c'est qu'il y aurait un délateur à l'interne maintenant. On aurait réussi à convaincre un des membres à nous donner de l'information. Ils étaient surveillés par la GRC depuis 2023. Ils étaient visés par d'importantes perquisitions aussi du côté de janvier 2024. Et l'opération avait permis de saisir plein d'armes à feu, des dispositifs prohibés, des munitions. Qui était parmi ces candidats, tiens, terroristes? Marc-Aurel Chabot, Simon Angers-Audet, Raphaël Lagacé. Ils ont été tous les trois accusés en lien avec le terrorisme l'été passé. Et leur présumé complice, Matthew Forbes, a été visé par des chefs liés aux armes uniquement. Documents policiers qui continuent d'être épluchés. Et pour certains, ça allait même probablement à être capable de mourir pour leur cause. C'est ce qu'on apprenait aujourd'hui aussi. Et ils avaient bien peur de la fin du monde et des zombies. Ce seraient des informations clés qu'on aurait eues de certains témoignages, entre autres du chef de bande qui était vraiment omnibulé par les dits zombies. La politique fait partie de nos bulletins depuis toujours et encore plus depuis un an. On n'a pas eu d'accalmie à ce niveau-là. Hein. Gouvernement péquiste qui revient à l'actualité. On voudrait mettre la hache dans les subventions pour financer les baisses d'impôts aux entreprises. Et on vient d'en parler, donc Paul Saint-Pierre Plamondon. S'il prend le pouvoir l'an prochain, ce serait dans ses ambitions. C'est très populaire sous le gouvernement caquiste et ce sera en échange d'importantes baisses d'impôts, donc en économie et sur bien d'autres sujets. Le Parti québécois se positionne. On essaie probablement de faire des annonces avant la campagne électorale. Bien que ça peut leur attirer un petit peu de fougue, on est là-dedans en ce moment. Autre information qui vient de sortir, toujours dans des dossiers là, assez importants, la mafia montréalaise qui aurait mis un contrat d'au moins 800 000 $ sur la tête du chef d'un gang pour répliquer à plein de coups de feu envers des dirigeants qui sont en prison. Donc, il y a des choses qui brassent en prison, vous le savez, on en parle de plus en plus. Il y en a qui font la loi. Une fois qu'ils arrivent entre les murs carcéraux, bien, c'est pas là où ça s'arrête, la criminalité. Puis on comprend même qu'il s'en crée d'autres criminalités. Et là, c'est le cas des attaques répétées contre la mafia montréalaise et il y aurait un contrat sur la tête d'un chef de gang et c'est d'influents mafieux qui ont été ciblés par des coups de feu dans la cour d'une prison de Montréal en novembre qui, avec enquête, expertise, nous révèle que ça se passe vraiment pas très bien et surtout entre les murs des prisons, on est capable d'élaborer des clans. Il y a beaucoup de choses sur la guerre des stupéfiants, sur le crime organisé en ce moment dans les médias. Je pense que ça a été une série d'articles qui attire beaucoup l'attention aujourd'hui. Sinon, dans Portneuf, introduction par effraction, on a attaqué les résidents et on a pris par la fuite, on a pris par la suite la fuite. Deux suspects se sont introduits, c'est du côté de Saint-Casimir et ils ont attaqué les résidents. Ensuite, quitter les lieux. C'était hier sur la rue Tessier. Les victimes ont subi des blessures mineures. C'est la bonne nouvelle. Donc, leurs vies ne sont pas en danger. Mais on a réussi à s'échapper aux policiers par la suite. Aucune arrestation a été effectuée pour le moment.
Au sport, le Canadien de Montréal a battu les Nordiques du Colorado 7-3 hier au Centre Bell. 2 buts pour Nick Suzuki, première étoile du match. On va en parler en fin d'émission avec l'excellent chroniqueur sportif du 99.5, journaliste également, Alex Laramé. En attendant, ici à Québec, c'était à la une du soleil. Un article de Émilie Pelletier, journaliste pour Le Soleil, une journaliste qui est sur le beat municipal de façon incroyable. Les résidents du centre-ville, ils en veulent moins d'événements, sont écœurés de se faire déranger. Et Émilie Pelletier est avec nous en studio, Pascal, pour en parler. C'est-tu pas le fun? Comment ça va, Émilie?
Ça va bien, vous autres aussi.
Ça va super bien. On s'était pas croisés encore depuis le début de l'année. Fait que même si on est le 30 janvier, je souhaite une année 2026 remplie de succès.
Je pense que c'est officiellement la dernière journée où c'est possible de
c'est
se
possible,
souhaiter
hein?
ça.
C'est possible, hein? Une année.
Je suis contente d'être venue. Tout juste à temps.
Ouf! Une année en politique municipale qui va brasser. Après le centre-ville, ton article sur les gens du Vieux-Québec, on parlera justement des travaux du tramway. Mm-hmm. Tu as rencontré plusieurs citoyennes qui sont exaspérées des événements. J'ai pas le choix de te poser la question comme ça, Émilie. C'est-tu des mousses de chialeuses qui veulent plus y avoir du monde proche de chez eux?
Et je te dirais qu'elles s'en défendent, ces dames-là, qu'ils ont lancé une pétition. Et on sait que ça date pas d'hier, hein, quand même, cette question-là des événements dans le Vieux-Québec, dans le quartier patrimonial. Et effectivement, je relisais, c'est très drôle, je suis retournée dans nos archives et j'ai retrouvé d'anciennes lettres d'opinion qui dataient des fêtes du 400e, donc autour de 2007, 2008, ouais, 2008. Et les gens se plaignaient à l'époque de tout plein d'événements. Donc,
il y avait le... Ça n'a pas changé,
de
effectivement.
De toutes sortes d'événements, je voulais dire, mais il y avait le Moulin Image, par exemple. Il y avait d'autres événements. Un peu plus tard,
Clotin
ça a été...
Rapaille.
Oui, il y a eu également le Red Bull Crash Test, oui. Qui avait soulevé les passions à l'époque. Et effectivement, le maire Régis Labeaume, jadis... n'avait pas peur de dire que ces gens-là chialaient, parce que lui, il avait des ambitions pour le quartier, de ramener des événements, de le faire vivre avec de façon touristique, ce quartier-là. Et donc, ça revient, cette discussion-là, dans un moment où le Vieux-Québec, encore une fois, l'administration Marchand cherche à ramener 500 résidents permanents dans le quartier où il y a eu un déclin là, démographique au cours au moins des 20 dernières années. Et donc, ça revient parce que ces dames-là qui ont lancé une pétition au cours des 2 dernières semaines, ce qu'elles disent, en fait, c'est oui, il faut s'attaquer à la question des commerces de proximité. Hein? On perd des épiceries, on a perdu encore un Jean Coutu à la fin janvier. Mais au-delà de ça, la qualité de vie, là, c'est aussi le fait de pouvoir être tranquille chez soi, de pouvoir stationner sa voiture sur un stationnement qui nous est réservé et qui parfois peut nous être volé littéralement par des
quelqu'un
visiteurs.
Qui a décidé qu'il prenait.
Absolument. C'est pouvoir marcher sur son trottoir sans être dans le trafic. Donc, c'est ce qu'elles expliquent et elles pressent l'administration finalement de s'attaquer à ça.
Mais je pense que la problématique risque d'être plus complexe que juste l'annoncer puis dire on aimerait ça et tout ça. T'sais, il y a eu beaucoup d'implantations d'Airbnb, il y a eu beaucoup d'implantations de locations à court terme, il y a eu des rénovictions qui ont fait tasser beaucoup de gens vers d'autres quartiers de la ville de Québec. Puis honnêtement, le stationnement avec l'arrivée du tramway, ça va être aussi difficile. As-tu espoir, toi, ou tu penses que ça va être juste des paroles frivoles pour la suite?
Bien, écoute, lorsqu'on rencontre ces dames-là, on sent quand même que c'est une espèce d'ultimatum ou un dernier cri du cœur. Je l'ai vraiment senti comme ça. Il y en a une de ces résidentes-là qui habite le Vieux-Québec depuis plus de 20 ans. Elle me dit, cette pétition-là, c'est un peu mon dernier shot. Là. Mm. Je l'essaie. Puis en même temps, lorsqu'on parle à l'administration Marchand, donc la conseillère municipale du secteur, Mélissa Coulombe-Leduc, elle le garantit, là. L'intention de la ville, ce n'est pas d'ajouter davantage d'événements. Parce qu'à l'heure actuelle, les citoyennes à qui j'ai parlé en recensent 19 au cours de l'année, OK? Elles ont fait...
Trouvent que c'est trop.
Elles trouvent que c'est trop, qu'on devrait non seulement mettre un moratoire sur le nombre d'événements, mais également, à terme, en retirer. Et ce n'est pas de dire on ne veut plus que ces événements-là se tiennent, mais est-ce qu'ils peuvent se tenir de façon éclatée ailleurs en ville. Elle plaide qu'il y a beaucoup d'autres parcs que les plaines d'Abraham ou que le Petit Champlain ou que des secteurs où on se tient des événements, des petites rues résidentielles également du Vieux-Québec, où on pourrait faire des événements ailleurs en ville pour finalement faire profiter possiblement également d'autres commerçants ou d'autres.
Mais je me trompe-tu, Émilie, où c'était déjà dans l'idée de la ville? Tu sais, on a déjà entendu ça sous le joug d'un maire, là.
Oui, eh bien, absolument.
C'était pas le maire Marchand?
Ben oui, depuis la première campagne électorale, effectivement, il y a cette volonté-là d'éclater les événements, d'en faire profiter les gens dans les arrondissements, dans les périphéries. Mais je veux dire, on se cachera quand même pas que les gens allaient voir un spectacle, peut-être dans la Haute-Saint-Charles, il y a peut-être moins d'attrait.
Ben, il y a moins d'attrait. Et les gens veulent venir voir le vieux Québec, veulent venir voir les vieux murs, veulent venir voir les fortifications. Donc, c'est clair que, tu sais, si je dis à un touriste, « Hey, sais-tu quoi? Viens voir mon spectacle que j'organise dans un parc à Charlebourg. » Il va y avoir moins de monde que si je l'organise au centre-ville.
Oui, mais lorsqu'elles le calculent, elles disent quand même, ben oui pour le vieux Québec, oui pour la vue de carte postale. Et les résidents, ce qu'ils disent, c'est également, on l'adore notre vieux Québec, c'est pourquoi on l'habite toujours. Hein. Si on ne l'aimait pas, peut-être qu'on l'aurait quitté il y a bien longtemps. Mais écoute, quand on parle de 19 événements qui s'étalent sur environ 87 jours dans l'année, et ça, on s'entend quand vous et moi, c'est concentré sur quelques mois, hein, en particulier, c'est les mois d'été, bien sûr, donc juillet, août, peut-être septembre. Ensuite de ça, plus tard, en septembre, octobre, il y a les croisiéristes également qui débarquent, le Petit Champlain, Place Royale et tout ça. Et ensuite de ça, bien, dans le temps des fêtes, ce qu'elle dit, c'est également, il y a une enfilade là, d'événements.
Oui, d'autant que le marché allemand qui a gagné énormément en popularité.
Donc, c'est ça, elles disent, il n'y a pas nécessairement plus d'événements. Il y en a quelques-uns qui se sont ajoutés au cours des dernières années. Il y a notamment l'Agora du Port de Québec qui a repris une programmation complète en 2022. Il y a également un nouvel événement sportif. Il y a le nouveau Festival des arts de la rue de la ville de Québec également.
Cigale, la Baie de Beauport.
Oui, Réverbère, tout ça. Donc, il y en a quand même plusieurs, mais ce qu'on dit aussi, c'est cette volonté de faire de Québec une ville qui bat tous les records d'achalandage. Dans le temps des fêtes, on a salué Québec comme
c'est
étant
pété
la
bretelle.
Destination numéro un au Canada pendant le temps des fêtes. Les gens qui l'habitent sont pas contre ça, mais disent est-ce qu'on peut voir à protéger la qualité de vie des résidents en contrepartie. Donc, quand même, tout un mandat pour l'administration Marchand de faire trouver ce juste équilibre.
Ils sont un peu dans une situation perdant-perdant, là, l'administration Marchand. Toi, tu le vois comment? Puis c'est ma dernière question. Tu vois ça comment poindre à l'horizon? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir une vague de départ de citoyens du Vieux-Québec puis que ça va être des nouvelles personnes qui vont arriver et qui vont se dire, ben moi, je m'en viens habiter au Vieux-Québec puis je le sais qu'il y a plein d'actions et je vis bien avec ça? Ou tu penses que l'administration Marchand va être capable justement de faire cet équilibriste-là et garder les gens?
Bien, moi, je pense que ceux qui y sont toujours sont clairement des gens amoureux du Vieux-Québec. Ce sont des gens qui l'aiment, qui ont choisi de ne pas le quitter. Et puis, quand on lit les commentaires, il y en a plusieurs qui disent, bien, effectivement, c'est que les irritants s'accumulent et donc vont menacer peut-être de le quitter. Qui est-ce qui sont ces gens que l'administration Marchand a l'intention d'amener vivre dans le Vieux-Québec? Bien, effectivement, il faut que ce soit des gens qui, lorsqu'ils décideront de venir l'habiter, ce quartier-là, vont être en connaissance de cause.
Oui.
Je veux dire, il faut...
Puis vont aimer cette vitalité-là. Là.
Oui, absolument. Il faut aimer ce mode de vie-là. Mais il y en a d'autres qui disent, ben moi, écoutez, l'été, c'est rendu invivable. Je m'en vais dans ma maison à la campagne pour m'en sauver. Donc, est-ce que ce mode de vie-là, justement, il plaît à des familles? Est-ce qu'il plaît à des travailleurs? Davantage à des jeunes
professionnels? Des jeunes professionnels, c'est ce que j'allais dire.
Exactement.
Ce qui me faisait le plus rire, c'est d'entendre quelqu'un qui disait, effectivement, j'étouffe dans le Vieux-Québec pendant, certains moments de l'année, mais qui mettait son logement, tiens, en location. Donc, attirait les touristes pour partir ailleurs.
Pour partir.
Oui, bien, je pense que... Puis, en fait, c'est ce qui est très drôle dans ce dossier-là, c'est que les dames m'ont expliqué qu'elles ont distribué des tracts pour essayer de convaincre les gens de signer leur pétition à déposer puis à présenter à l'administration municipale. Et elles disent, une semaine plus tard, on est repassé dans les mêmes rues où on avait fait ces distributions-là et les tracts, les dépliants sont toujours dans les boîtes aux lettres et personne ne les a pris. Les volets sont fermés. Alors donc, résultat, il n'y a personne qui habite là. Il y a énormément de gens qui investissent dans le quartier. Elles-mêmes me disent qu'elles connaissent des voisins qui habitent Toronto, qui habitent ailleurs au Canada ou ailleurs même à l'international et qui ont un pied-à-terre dans le Vieux-Québec, mais ne l'habitent pas à l'année. Alors...
Émilie Pelletier, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui en studio avec nous à l'émission On en jase. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Continue à faire ton excellent travail dans le soleil parce qu'à chaque jour, j'en apprends sur ma ville grâce à toi. Je suis très, 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 très heureux. Si vous ne lisez pas Émilie Pelletier dans le soleil, commencez à le faire sur les différentes plateformes. Vous allez savoir exactement ce qui se passe dans votre ville. courte pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Par la suite, Pascal, gros congrès du Parti conservateur du Québec. C'est cette fin de semaine que ça se passe. On se crinque, on se pompe en vue des prochaines élections générales. Le Parti conservateur qui score pas juste à Québec, 23 % à Chicoutimi dans un sondage qu'ils ont fait à l'interne. On parle de ça avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, au retour de la pause.
Jusqu'à